que nous essayons de faire le samedi, nous essayons de regarder la question de la vérité ou de la manière dont on peut approcher la vérité sur le plan philosophique. Bon, je sais bien, c'est un moine qui fait ça, ça ne devrait pas être un moine, ça devrait être quelqu'un qui n'est pas moine, mais j'y peux rien, puisque, j'allais dire, les hommes de notre monde d'aujourd'hui ne respectent même pas la vérité sur le plan humain. Et donc c'est obligé que ce soit même des moines qui commencent à... Ce n'est pas leur boulot, ce n'est pas le boulot d'un moine. Le boulot d'un moine, c'est de prier, de contempler les mystères divins, c'est d'enseigner la foi, ça c'est sûr, c'est d'essayer de faire rentrer le monde dans les mystères. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les moines sont obligés de descendre dans l'arène philosophique, hein, dans l'arène de la recherche de la vérité? C'est parce que, quelque part, il y a un déséquilibre très profond de notre humanité. Chacun d'entre nous, de toute façon, on a bien l'expérience. On est un petit peu désaxé, déséquilibré. Qui ne fait pas cette expérience de ce déséquilibre, qui n'est pas un déséquilibre mystique, vous comprenez? C'est pas du tout un déséquilibre de l'ordre du christianisme, de la sainteté, ça. C'est la base qui est cassée. La base, le point de vue humain qui est cassé. Donc, il faut revenir à ces fondements très, très, très élémentaires du bon sens. Très difficile aujourd'hui. Très difficile, parce que tout le monde est avec, avec les médias, avec les propagandes, les idéologies, donc vous le savez bien, rempli de ces espèces de méthodes nouvelles, et alors on se précipite dans des milieux sectaires, dans des milieux... Ou alors il y a des gourous et des machins, on se fie à lui, enfin, c'est horrible, hein. Faut voir ce que c'est, donc ici nous faisons ensemble cet effort d'essayer de chercher la vérité ensemble. Ensemble, on cherche la vérité. La vérité est quelque chose qui est tellement précieux qu'on ne peut pas se permettre de dire la vérité, c'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un dit ce que je dis c'est la vérité, ça ne va pas. Mais si nous cherchons ensemble la vérité, il n'y a que Jésus qui peut dire ça. C'est que Jésus qui peut dire ça. Jésus, d'accord. Ça, c'est un nouveau moine qui parle, n'est-ce pas? Mais le chrétien, quoi. Jésus, il peut dire, je suis la vérité. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Mais sinon, n'importe quel homme, non, on peut pas. Alors, on cherche la vérité ensemble. On la cherche ensemble, en ce sens que... alors, à part quoi ça sert qu'il y ait quelqu'un en face qui parle, ça sert simplement à faire gagner du temps, c'est tout, hein, ça permet de gagner du temps. On essaie de regarder ce que les grands, ce que nous essayons de choisir, c'est de regarder ce que les plus grands, ceux qui ont eu le plus grand bon sens dans l'histoire de l'humanité, nous ont donné comme clé pour gagner du temps, quoi. On a des maîtres morts, on a des maîtres vivants de ce côté-là. Il y a des gens qui ont un solide bon sens, c'est vrai. Il y a le bon sens humain, il y a le bon sens même mystique. Sur le plan mystique, il y a des gens qui ont du bon sens. C'est ce que l'Église appelle les docteurs de l'Église. Les docteurs de l'Église, ce n'est pas du tout des gens qui sont dans les terres, hein, qui se partent. Non, non, c'est des gens qui font à partir de l'expérience. À partir de l'expérience du Saint-Esprit et à partir de l'expérience bien concrète, bon, bah, ils disent quelque chose qui est incontournable. Donc vous voyez un petit peu l'effort que nous faisons. Bon. Déjà, je n'ai pas tellement envie de vous faire un résumé de ce qu'on a fait l'année dernière, hein, ce n'est pas la peine. Et j'avais proposé, puisqu'on avait fait cet effort l'année dernière, de regarder comment fonctionne, donc humainement parlant, comment on fait l'expérience, au fond, de ce que nous avons appelé la mémoire ontologique, de ce que nous avons appelé, au fond, on devrait aujourd'hui appeler ça la liberté humaine. Hein. Donc notre capacité de nous engager. Pourquoi? Parce qu'on est complètement coincé, on n'arrive pas à s'engager. On n'arrive pas à retrouver en nous cette force qui fait qu'on a une confiance éperdue pour pouvoir rentrer dans le fameux nom de nous-mêmes pour nous engager dans le concret, n'est-ce pas? La fameuse mémoire. La mémoire fait que, donc, on a une vocation, on a dit oui profondément à cette vocation, quelque part, et au bout d'un certain temps, on coince. Alors, il faut redébloquer cette puissance intérieure de la liberté. quelquefois, on est quelquefois. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas libre? Quelqu'un qui n'est pas libre, vous savez bien, c'est quelqu'un qui dit, moi j'aimerais bien être un homme vachement équilibré, debout, aimant, contemplatif et tout, droit, mais j'y arrive pas. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, parce qu'il n'en a pas la capacité. Il pourrait en avoir la capacité, mais il n'en a pas le pouvoir. Il aimerait, il a l'intention, mais il n'y a jamais l'exécution. Et si cette liberté se redresse, si on arrive à retrouver une espèce de guérison par le bon sens, par le concret, alors à ce moment-là, c'est possible au cœur profond, à la volonté profonde de l'homme, à notre volonté profonde, de commencer à pouvoir aimer humainement. Donc cette année, si vous voulez, on va passer à cette espèce d'expérience réveil du cœur. Le réveil du cœur. C'est intéressant, le réveil du cœur. L'amour. L'amour. Comment un amour devient humain? Et je tiens à quand même à préciser une chose, j'espère pas vous choquer, mais il me semble que pour le très grand nombre d'entre nous qui sont ici, l'amour humain, nous n'en avons jamais fait l'expérience. Jamais. C'est terrible ça, de dire ça, mais n'empêche que c'est vrai. L'amour humain. Ah oui, alors l'amour sentimental, l'amour passionnel, l'amour psychosomatique, ça, pour être très psychique. Ça, on fait l'expérience de ça, c'est pas très bien. Et encore. Mais l'amour humain. Et ce que j'aurais tellement aimé faire avec vous c'est, cette année, c'est d'essayer de regarder ensemble cette année, quelque part, on essaye regarder pas à pas comment philosophiquement on découvre cette possibilité pour le cœur de recommencer à vivre. Et il ne s'agit pas de comprendre théoriquement, si vous voulez. Il s'agit de faire par notre expérience, quelque part, essayer de saisir petit à petit, faire que ça y est, on commence à dire quelque chose qui se réveille en nous, on recommence à être attiré par une finalité, par un bien qui est autre que nous. On est capable de rentrer, au fond, dans une extase naturelle, une extase du cœur. L'amour apparaît. Et à partir du moment où l'amour apparaît, il est possible à la charité, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'amour humain, du point de vue surnaturel, théologal et divin, de venir dans notre volonté profonde pour qu'on puisse aimer d'un amour qui dépasse totalement toutes les puissances de l'homme. Totalement. Cet amour, charité théologale. Donc, alors évidemment, je suis d'accord qu'on fait de la philosophie, mais on a parfaitement le droit de regarder philosophiquement la tradition chrétienne, qui dit qu'il y a un amour qui dépasse totalement l'amour humain. Et à quoi il ressemble, cet amour aussi. Donc on le verra. Et je crois que c'est bien aussi de regarder donc comment cet amour, à ce moment-là, rentre dans sa splendeur, dans sa gloire, dans la victoire sur tout ce qui n'est pas l'amour, avec le point de vue donc de l'union transformante, et notamment, ce serait bien de regarder donc Saint Jean de la Croix pour ça. Saint Jean de la Croix, c'est quand même très intéressant, n'est-ce pas ? Voilà, moi c'est ça que je proposerais de faire. Je propose, voici donc. Sauf si vous n'êtes pas d'accord, il était 7-8 là à me proposer ça. C'était mes apôtres qui m'ont dit, mes apôtresses qui ont dit ça après avoir marché pendant 100 km. Oui, on pourrait regarder ça. Vous savez bien que. Donc peut-être que cette année, exceptionnellement, on dépassera le point de vue philosophique et on commencera peut-être à faire un petit peu de catéchisme. De catéchèse, ou si vous préférez, de la théologie. Habituellement, le samedi, vous savez bien, on se cantonne au point de vue philosophique. Je sais bien que, vous comprenez que pour l'amour, c'est... Je sais bien que, dans le point de vue de l'amour, c'est délicat de rester au plan philosophique. C'est ça qui est délicat dans l'amour. Rester au plan philosophique, c'est embêtant, parce que vous le savez très bien, quand on aime quelqu'un, et quand on aime son ami, quand on aime son conjoint, quand on aime son enfant, on l'aime, on regarde pas, ah, tiens, je l'aime sur le plan psychosomatique, ou tiens, je l'aime sur le plan sentimental, tiens, et tu distingues des secrets. Donc, c'est sûr, surtout nous qui sommes, au fond, croyants, enfin, des gens qui sont croyants, bon, même peut-être il y en a qui ne sont pas croyants parmi vous, samedi, vous savez bien, samedi, le samedi, il y a, c'est un, tout le monde est invité, même celui qui est athée, c'est pas un problème, ça. Pour tout le monde, hein, la recherche de la vérité, même pour celui qui n'est pas croyant. Et celui qui n'est pas croyant, il cherche la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que, ordinairement, quand même, pour un certain nombre d'entre vous qui êtes croyants, donc, moi par exemple, j'essaye d'être croyant. Bon, je crois, j'essaye, je crois que j'essaye. Bon, eh ben, j'aime avec tout ce que j'ai. Or, il y a un amour religieux quand même en moi. Il y a une espèce de présence de Dieu dans l'amour que j'essaie de te porter. Hein. Il y a quelque chose qui relève aussi du point de vue surnaturel. Dès qu'il s'agit de l'amour, l'amour, il y a quelque chose de... C'est un, l'amour, c'est je t'aime, c'est tout. Vous comprenez bien. Donc, tous les degrés de l'amour sont présents. C'est pour ça que c'est très délicat de faire une philosophie au fond de l'amour en disant, on s'arrête au point de vue philosophique. C'est délicat. Parce que l'amour s'explique un peu par son sommet. Hein. Il s'explique par son sommet. Le sommet, je suis désolé, mais nous le savons bien, le sommet, c'est quand même l'amour qui est à l'intime de Dieu. C'est un amour qui est surnaturel. Et tout vient de ça. Alors je sais bien que moi j'aurais une ambition cette année, c'est de regarder, mais néanmoins, il y a quand même des degrés de profondeur hein, dans l'ordre de l'amour. Et donc il faut qu'on soit quand même, il y a quand même une, ordinairement quand on aime, il y a un centre de gravité, une dominante si vous voulez. Et quelquefois mon amour est purement instinctif, qu'est-ce que vous voulez, primo primi, comme on dit. Primo primi. Ça, je ne vous fais pas un dessin, mais vous voyez bien, quelquefois, paf, pouf, c'est paf, ou alors plouf, vous voyez, c'est instinctif, quoi, c'est psychosomatique, c'est paf, bon, très bien, quelquefois, bon, il est passionnel, bon, t'es amoureux, ceci, cela, il y a des colères, il y a un point de vue colérique qui vient s'installer dans la relation, il y a un point de vue d'agressivité qui vient s'installer dans la relation, il y a un point de vue d'audace, tout ça, tout ce que vous voulez, point de vue passionnel. Il y a un point de vue passionnel. Ah, il y a un point de vue quelquefois idéalisé. L'amour s'idéalise, il devient romantique, sentimental. Et puis l'amour devient humain. L'amour devient humain. J'aimerais bien regarder tout ça avec vous. Et puis après, au bout d'un certain temps, enfin, ou alors tout de suite, hein, tout de suite, l'amour peut devenir aussi un amour où Dieu est dedans, le Créateur. L'amour pur, l'amour éternel. Quelquefois, on sent très bien que quand on aime, Dieu est dedans. Moi, je me rappelle par exemple que... Bon, faut pas parler de ces histoires personnelles, mais je me rappelle que, bon, une fois, j'ai. La première fois que j'ai vu le pape, Jean-Paul II. Bon, ben. Il y a un amour, hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce pape, hein. Je l'aimais beaucoup dès le départ. Et j'ai eu le coup de foudre, donc le coup de foudre, c'est ici, tu vois, passionnel. J'ai eu le coup de foudre quand il montait à la chaude de Saint-Pierre. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce Polonais? Il dit, oh, un Polonais, oh. Puis il a commencé à parler. Et puis quand même, il y a eu un coup de foudre à un moment. Paf, ça m'a fait quelque chose, un coup là. Et puis un jour, je l'ai vu. Et je l'aime bien parce que j'avais étudié donc tous ces discours sur le corps de l'homme et le corps de la femme. Ça a duré 3 ans. J'ai fait un enseignement sur le corps de l'homme et le corps de la femme. Vous savez bien que j'ai étudié ça pendant à peu près 10 ans, à partir des principes donc philosophiques du Saint-Père. C'est le premier pape philosophe de l'histoire de l'Église. Il ne faut jamais oublier ça. Il a dit bien que j'avais une amitié avec lui, ici, l'amitié. Amitié du philosophe. Mais quand je l'ai vu, il y a eu la même expérience que une expérience d'amitié surnaturelle. Il y a eu quelque chose de très très fort, surnaturellement parlant. Ça c'est sûr. Il y a eu une effusion de grâce surnaturelle qui fait que quelque part nous faisions un seul corps mystiquement, surnaturellement. C'était net. C'était très net. Et donc on peut quand même, vous-même, essayez de voir vos expériences, vous voyez bien qu'il y a des degrés d'amour différents, vous voyez bien? Et que l'amour, lui, il ne cesse de... C'est une vie, l'amour, c'est une vie. Donc la vie, ça a une croissance. Ça, vous ne pouvez pas tirer sur l'herbe pour que ce soit immédiatement un amour sommet. Mais homéopathiquement, petit à petit, à force de faire des actes héroïques d'amour, toujours de vous dépasser vous-même, vous donner héroïquement, qu'il n'y ait plus que l'autre qui commande, petit à petit, les degrés de l'amour vont apparaître. Vous comprenez? Moi, ce serait un petit peu mon objectif. Vous savez que dans le point de vue psychosomatique, bon, il y a 4 degrés, 4 étapes. Dans le point de vue passionnel, il y a 11 étapes. Dans le point de vue romantique, il y en a 4. Dans le point de vue, ici, pneumatique. Alors, je vous rappelle que pneuma, en grec, ça veut dire l'esprit humain. L'esprit humain. Et psyché. Psyché, alors bon, c'est ce que je préfère comme ça, psyché. Psyché, ça veut dire l'âme, hein, le point de vue psychique, ça vient de la psyché. Hein. Donc, dans le point de vue thématique, c'est le point de vue de ce qu'il y a de plus humain dans l'humain, hein, le point de vue de l'homme. Dans le point de vue thématique, bon, vous le savez bien, il va y avoir à nouveau 4 degrés. Voilà. Total, ça devrait faire, si mes souvenirs sont exacts, 24 degrés dans l'ordre de l'amour. Il faut absolument voir quels sont ces 24 degrés. Il faut absolument être lucide pour savoir, lorsque j'aime quelqu'un, bon, eh ben, d'être capable de voir en prospective, ben oui, là, j'en étais là. Hein? Il faut qu'on soit lucide sur la qualité, la maturité de son amour. Et puis, il y a au-dessus le point de vue donc, qui dépasse tout le point de vue humain, qui correspond donc à la charité, et ici il va y avoir donc 9 degrés. Total 33 degrés dans l'ordre de l'amour, vous le savez. Donc moi, l'ambition que j'aurais eue avec vous, c'est de regarder cette année philosophiquement ça, mais pour éviter de recommencer ce que nous avions déjà fait, parce qu'on l'avait déjà fait ça plus ou moins il y a 4 ans, hein, je ne veux pas recommencer pour ceux qui étaient là, je voudrais le faire... à partir de l'éducation du cœur à travers la troisième épreuve. Vous vous rappelez? La troisième épreuve du cœur, vous savez que nous avions déjà vu en éthique religieuse les 3 épreuves, mais on s'est arrêté essentiellement à la première et deuxième épreuve, l'épreuve de l'enfance, qui découvre tous ses degrés dans l'ordre de l'amour, l'épreuve de l'adolescence, qui découvre tous ses degrés dans l'ordre de l'amour. Et cette année, donc, je voudrais regarder la prospective de l'éveil et de l'éducation du cœur à travers la troisième épreuve, qui est l'épreuve de l'âge adulte. C'est normal, puisque c'est encore un autre... c'est une autre manière de regarder. Parce que, bon, on espère quand même que, petit à petit, on est sorti de l'adolescence. Hein? On espère que on est... C'est pas sûr. Je sais bien, c'est pas sûr. Mais c'est facile si vous voulez savoir si vous êtes encore dans l'adolescence. Est-ce que vous êtes capricieux et susceptible? Si si vous êtes encore capricieux et susceptible, c'est que vous n'avez pas dépassé la deuxième épreuve. L'adolescence, 13 ans, maturité affective. Quelqu'un qui est encore susceptible et capricieux, c'est un ado, un adolescent. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Quelqu'un qui commence à voir que la première chose à respecter, c'est les commandements de Dieu, ça veut dire qu'il sort de l'adolescence. Ça, c'est un petit critère religieux, très intéressant, qui est valable pour toutes les religions révélées, pas seulement pour le christianisme. C'est seulement quelqu'un qui dit « je commence par respecter les commandements de Dieu », celui-là, ça veut dire qu'il est sorti de l'adolescence. Et c'est ces critères, ces actes, c'est ça. Concrètement, ces engagements sont en fonction de ça. Ça veut dire qu'il est sorti... C'est embêtant pour nous, ça nous condamne, hein, quelque part. Hein. C'est pour ça qu'il faut absolument essayer d'y voir clair, parce que notre but, un petit peu, c'est pas... C'est d'arriver à une certaine auto-éducation du cœur, humainement. C'est tellement important aujourd'hui. Parce que c'est sûr que le monde d'aujourd'hui, avec sa vitesse, détruit cette espèce de calme, de confiance, de sérénité, stabilité dans l'amour. Ça, moi, je crois que c'est clair, ça. On a du mal à persévérer. Être fidèle, comme on dit, n'est-ce pas ? Voilà. Alors moi, j'aurais cette ambition, mais vous savez, mes ambitions, j'arrive pas toujours à les respecter, parce que on cherche ensemble, alors vous me faites toujours prendre des tangentes, ce qui est très bien, ce qui est très bien. Voilà, alors...
Autant. J'avais une question à vous poser. Vous vous souvenez, l'année dernière, à propos de la mémoire, on a étudié à partir de mots hébreux, la Neshama,
oui.
La Nefesh,
oui.
Et puis la Roi.
La Roi.
Je voulais savoir s'il y avait une relation possible entre Pneuma Psyché et est-ce qu'il y avait une correspondance entre...
Bah, je répète, pour ceux qui n'ont rien compris, n'est-ce pas ? Oui, ça c'est le... Oui, très bien. Merci. Oui, oui, tu peux faire bien sûr un parallèle, hein. Tu peux faire un parallèle. Voilà, d'après le Talmud, d'après l'enseignement donc de la synagogue, de l'enseignement de Moïse plus exactement, qui est enregistré et fixé par Rabbi Akiba dans le Talmud. Rabbi Akiba, 1er siècle après Jésus-Christ. L'homme a 5 centres de gravité, hein, les centres de gravité de l'âme. Alors, petite culture générale, c'est pas très intéressant puisqu'on est judéo-chrétien, ça, alors c'est très bien, mais je le rappelle rapidement. L'homme est une plante. L'homme est une plante, l'homme a une vie, c'est vrai, on a une vie végétative, on a une vie organique, on a tant. Le centre de gravité de la plante, c'est en dessous de la terre. Je trouve mon centre de gravité dans la Neshama, premier centre de gravité. C'est très beau cet enseignement de Moïse parce que, bon, il est au niveau de la terre. L'homme est également à une vie psychique, il a une vie, il est animé. De l'intérieur, il a une vie intérieure, bon, et donc, il comme l'animal, bon, la vache par exemple, bon, qui court, le centre de gravité de l'âme animale, c'est également une neshama. Et ça se trouve au niveau des entrailles, vous savez, du cœur, c'est quand même au-dessus du sol, hein. C'est au-dessus de la terre, c'est pas, le centre de gravité n'est pas tellurique, si vous voulez. Donc vous avez un centre qui est psychosomatique, les fameuses énergies, n'est-ce pas ? Ça c'est les énergies, hein, neshama, de l'arbre. Hein. C'est pour ça que vous prenez un chêne, et vous embrassez un chêne. C'est ridicule, mais enfin, c'est très intéressant à faire. Bon, c'est les énergies, vous voyez ?
les fameuses énergies de la spiritualité un petit peu nouvelle, du New Age, etc., qui est manipulée essentiellement très très fort par les groupes sectaires aujourd'hui, parce qu'il faut beaucoup de résultats concrets, terrestres, n'est-ce pas ? J'utilise ce centre de gravité. Donc, du point de vue, vous savez très bien que dans la Bible, on parle beaucoup des reins et du cœur. Ça, c'est la neshama animale. C'est pour réveiller le point de vue de l'intériorité. Mais ça reste animal, c'est psychique, quoi. D'accord ? Bon, c'est quand même au-dessus du sol. Donc, vous voyez, quelqu'un qui vivrait uniquement sur ce centre de gravité au niveau du cœur, en disant « moi j'aime », etc., il ne dépasse pas le point de vue de la vache. Mais c'est déjà pas mal. Donc, je tire mon chapeau en disant « oh, quel amour merveilleux !» Bon, très bien. Vous avez ensuite, donc, premier centre de gravité. Voilà, deuxième centre de gravité. Troisième centre de gravité, là, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc vous avez l'Esprit de Dieu qui va prendre le corps de l'homme. L'Esprit de Dieu souffle sur son visage. Alors le visage. Donc le son centre de gravité, ce sera au fond la recherche de la vérité pour qu'il puisse devenir contemplatif et qu'il puisse devenir une personne humaine. Ça va ? Alors à ce moment-là, le souffle divin fait que les deux centres ici, un de la neshama, s'associe à un troisième centre de gravité qu'on appelle la nefesh en hébreu. Hein. C'est pas du tout pareil la nefesh. Déjà, vous voyez, il y a quelque chose de personnel dans la nefesh, il y a quelque chose de pneumatique dans la nefesh. Hein. Il y a quelque chose de humain. Il y a quelque chose qui dépasse l'hippopotame. Hein. Vous voyez ? Bon, ça c'est très important, mais c'est très, c'est ça j'allais dire, la nefesh, c'est un petit peu, au fond, l'intériorité de l'homme qui n'a pas commencé à utiliser toutes ses puissances humaines. Et quand il va aller vers sa finalité, et à partir de son principe, dans ce qu'il dépasse, à ce moment-là, il va trouver son centre de gravité dans la roire, la fameuse roire, c'est-à-dire le souffle créateur de Dieu. Et donc, si il met son centre de gravité dans ce fait que son être passe à la nefesh, c'est lié à la vie. Hein, vous rappelez, ça c'est la vie humaine. Mais il existe, jugement d'existence, j'existe. Dès que vous faites un jugement d'existence, votre centre de gravité, dès que vous faites un jugement d'existence, votre centre de gravité, il est par rapport à celui que touche votre être. Votre être, c'est le créateur. Je veux dire, c'est le créateur qui fait que vous existez. Tandis que votre vie, c'est vous. C'est vous qui tenez votre vie, votre intériorité, votre âme spirituelle en main. Parce que le fait que vous existez, c'est pas vous qui tenez en main. Le fait que vous existez, vous pouvez le toucher, c'est le créateur qui fait que vous existez. Dieu, le créateur, ne crée pas, vous le savez bien, la vie en ce moment. En ce moment, votre vie n'est pas créée par Dieu. Mais le fait que vous existez, oui. Donc si vous êtes capable, alors ça, c'est le centre de gravité d'un homme normal, là. À partir du moment où l'homme a son centre de gravité ici, c'est les trois autres centres de gravité qui sont en lui, permettent à tout ce qui est terrestre, minéral, n'est-ce pas, végétal, animal, et puis tous les autres hommes, d'être assumés en lui. C'est un homme debout. Il est capable de mouvoir les éléments d'en haut et les éléments d'en bas. D'accord ? Ça, c'est le point de vue, effectivement, tu as parfaitement raison, je suis d'accord, c'est le point de vue ici. Alors, tu vas me dire, Neshama, Neshama numéro 1, c'est le point de vue donc psychosomatique. Neshama numéro 2, c'est les passions. C'est le point de vue psychique, c'est les passions. Hein. La période intermédiaire, ça c'est les tangentes qui sont dues à la vanité, l'orgueil, la concupiscence, etc., qui font que mon amour dérape dans des tangentielles qui n'ont rien à voir avec l'amour, mais que je confonds avec l'amour. Hein. Et donc ici, il n'y a pas de centre de gravité, c'est quand je dépends des circonstances extérieures. Ça ne correspond à aucun centre de gravité par rapport à moi, je suis sous l'influence des circonstances. À ce moment-là, c'est plus de l'amour, hein, parce que l'amour jaillit de toi et de l'autre, mais pas des circonstances. L'amour est indépendant des circonstances. Ah, il est devenu très désagréable. Je m'en fous, ça c'est une circonstance. L'amour est indépendant des circonstances. Et ici, c'est très intéressant de voir les déviations. Hein, on se réfugie dans une petite voie de garage. Ah, je vais faire une œuvre très importante. Et du coup, j'échappe à mon devoir d'État. Bon, la fausse mystique, elle est là. Fais attention. Il faut être très... Moi, il me semble, hein, il faut être très... Il faut être loyal hein, avec soi-même, il ne faut pas se planquer. Hein. Bon, alors, je veux éduquer les autres, tu vois. Je veux toujours que... Il y a un moment aussi, je l'aime, mais du coup, comme je veux échapper à l'amour, alors je veux lui faire des remarques pour qu'il progresse, pour qu'il soit mieux. Il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. C'est parce que j'ai peur de l'amour. Du coup, je me planque dans un système de artistique. Quand tu prends l'autre comme une matière à transformer pour qu'elle soit plus belle, mieux, c'est du travail. C'est une matière transformable. C'est pas de l'amour, ça. Là, on se réfugie dans plein de trucs. Ce qu'ils sont ici. Donc, il n'y a pas de centre de gravité, c'est les circonstances, c'est les voies parallèles, n'est-ce pas? Pour échapper, pour dire, l'amour est exigeant. Hein. Alors, on se planque dans des voies de garage, surtout si on a plein de punch. Alors, à un moment, on rentre quand même dans l'amour spirituel. L'amour spirituel, je crois que c'est clair pour nous. Il va se diviser en deux. Il va se diviser en deux. Donc, c'est l'amour d'amitié et l'amour de réciprocité, l'amour de bienveillance. Alors, à ce moment-là, ça, je pense que c'est assez facile de comprendre que c'est un amour personnel. Il aboutit à la communion des personnes. C'est « je suis capable d'être face à face, deux personnes en un ». Mais quand le Créateur est présent, et que, du coup, je l'aime dans la lumière et dans la fameuse énergie, non pas neshamaïque, mais l'énergie du Créateur, dans la fameuse, dans la relation créatrice, Dieu, dans sa finalité en tant que créature, dans sa finalité, au-delà de cette vie. Quand je l'aime jusque dans le point de vue de l'être, et donc jusque dans sa finalité métaphysique, et donc je l'aime dans la lumière du Créateur, dans un amour de sagesse, là, je pense que c'est le point de vue de la rouar qui domine. Donc, vous avez bien les quatre centres de gravité que je mettrai donc ici. Là, là et là. Le cinquième centre de gravité, c'est la charité qui va dominer. C'est ce que je voudrais arriver. Vous comprenez bien que quand vous aimez, vous n'êtes pas ici, ou là, ou là, ou là. C'est tout y est, quoi. Et peut-être que vous êtes lilliputien ici et mammouthéen ici. N'est-ce pas ? C'est le mammouth au niveau psychosomatique, instinctif. Et puis, c'est le proton au niveau de l'amour. C'est protonique du côté de l'amour réel. Il y est, de toute façon. Mais c'est si petit. Il faut arriver à les repérer pour prendre du goût à ce qui est supérieur, parce que ce qui est supérieur centuple les aspects inférieurs sans les supprimer, et en les respectant, et en les assumant, assomption. Il faut apprendre, moi je voudrais apprendre, et puis c'est passionnant à regarder tout ça, mais en le regardant pour éviter donc de refaire ce que nous avions fait il y a 4 ans, donc je propose qu'on le fasse à partir de la fameuse troisième épreuve, sur cette difficulté que nous constatons dans notre vie à nous engager. On a du mal à s'engager dans le concret, dans le réel. Et l'autre, c'est du réel. Dans son travail, il n'y a pas que ça, hein, mais cette difficulté à engager toute sa vie. On a à prendre des engagements et à y rester fidèle, à persévérer, et à savoir qu'on persévérera, marche ou crève. C'est à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour l'amour, parce que l'amour est au-dessus de la vie et de la mort. Au-dessus de la vie et de la mort. La vie et la mort, c'est là. L'amour, c'est au-dessus du point de vue de l'être. Et l'amour, c'est l'Esprit Saint, qui est source de tout amour et qui fait que les quatre centres de gravité sont un seul amour. Alors, ça fait, je ne sais pas comment dire, un espèce de feu d'artifice omniprésent. C'est ça la charité. Mais la charité ne vient pas de nous. La charité vient d'en haut. Charité surnaturelle. Donc vous voyez comme c'est difficile de faire une espèce de recherche de la vérité, enfin à mon avis, en pure philosophie, si on ne prend pas le point de vue donc surnaturel. Vous comprenez ? Moi j'espère que vous voyez de tout de suite, parce qu'à ce moment-là, ce qui fait l'unité de tout amour, c'est surnaturel. Difficile à faire passer des gens qui croient pas en Dieu. Hein. Mais nous, grosso modo, on y croit quand même. Hein. Donc, on dira à ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà. Alors, oui.
La psyché, donc, ça correspond à un neshama sensible.
La psyché.
Ça correspond à un neshama.
Oui, c'est la neshama de la vie intérieure.
Donc, c'est le point de vue animal.
C'est le point de vue psychique.
Des passions.
Oui, passionnel. Oui, tout ce que tu ressens, c'est ton affectivité. Je ressens beaucoup d'amour pour lui. Ça, c'est
les passions, c'est exactement. L'affectif et la mémoire et l'imaginaire.
C'est l'affectivité sensible. C'est tout ce que tu ressens.
Imaginatif, tout ce qu'on appelle l'âme sensible.
Oui, c'est ça.
Philippe appelle le niveau sensible.
Tout à fait, l'âme sensible, l'âme sensitive.
L'humain, ça correspondrait plutôt à la nefesh ou à la roi.
À la spiritualité de l'âme. C'est l'aspect spirituel.
Donc,
de l'âme.
C'est la nefesh.
Oui, c'est ça, la nefesh. Pourquoi c'est bien ce que je disais. Oui.
Oui. Et il y aurait éventuellement un mot grec pour signifier la roi, c'est-à-dire le souffle du cinéma.
C'est Sophia. C'est un amour de sagesse.
Oui. Oui. On pourrait dire ça.
Un amour de sagesse, oui. En grec. Mais tu vois, que tu prends. Oui, psyché, pneuma, Sophia, oui, tout à fait. Oui, tu peux dire ça. Ah oui, et puis à ce moment-là, tu vas mettre en dessous agapé, hein, pour l'amour surnaturel. Agapé. Au-dessus, oui, c'est l'amour surnaturel. Agapé.
Et au niveau du soutien, on pourrait permettre, vous savez, il y a des rosses.
Alors, c'est encore autre chose. Alors, effectivement, parce que tu vas dire philos, la philia, tu vois.
Oui, mais ça correspond à un amour, ça ne correspond pas forcément à un niveau de vie.
Oui, tout à fait. Je sais bien, c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Quand tu dis psyché, pneuma, sophia, c'est des niveaux de l'activité de l'âme.
C'est en philosophie du vivant, ça.
Oui, c'est en philosophie du vivant. Tandis que quand tu dis agapé, philia,
c'est en éthique.
À ce moment-là,
non.
Oui, c'est ça, là tu es en philosophie, donc de l'amour. Hein.
D'accord.
Philosophie du bien. Alors, comment est-ce que tu vas dire agapé, du point de vue des niveaux de l'âme, là, je crois qu'il faut dire à ce moment-là grâce en grec. Qui est-ce qui connaît son grec? La grâce en grec, c'est quoi? C'est charis, je crois. Hein? Vous savez pas?
Charis.
Charis. C'est la grâce, à ce moment-là, qui est au-dessus, donc, de la sophia. Hein? Et c'est à l'intérieur de l'âme que la grâce vient surnaturaliser notre activité spirituelle. Et du coup, du point de vue du cœur, ça fait l'agapé. Oui. Comme avant, vous comprenez que tout ça, c'est des choses. Si quelqu'un ne comprend pas, il m'interrompt hein, tout de suite, hein, s'il vous plaît. Hein. Il m'interrompt et puis il me dit, ok, j'aimerais que vous précisiez ceci, cela. Une fois, je me rappelle, il avait posé une question très intéressante en disant, c'était, je ne sais plus quand. Donc, tu te rappelles pas que tu avais posé une question très intéressante? Tu m'en poses souvent, des questions. Voilà. Et je me rappelle de cette question parce que de toute façon, j'ai l'intention donc de reprendre ce que tu avais dit. Tu avais dit une fois, j'aimerais savoir exactement. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de charité, de foi, d'espérance, de grâce? Où est-ce que ça se planque tout ça? Où est-ce que ça va se loger et tout? Hein? Alors effectivement, parce qu'il faut voir qu'au fond, on va resituer un petit peu tout le point de vue de l'amour et de la charité dans son ensemble. Je vous rappelle une chose. Donc voici... voici mon bonhomme, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes dans l'admiration pour voir la ressemblance. Bon. Bon, eh bien, mon bonhomme est animé de l'intérieur. Mon homme est attiré dans tous ces niveaux donc, de vie intérieure, qu'ils soient au niveau de la Neshama, au niveau de la Nefesh ou de la Ruach Kadosh. Eh bien, il est animé de l'intérieur par une lumière vivante qui actue tout son diaphane intérieur, c'est-à-dire qu'il fait vivre dans toutes ses dimensions, qu'il fait vivre. Et cette source de vie et de lumière qu'il fait vivre, on appelle ça, vous le savez, l'âme. Bon, l'âme. Ok ? L'âme fait vivre le corps. L'âme fait vivre, votre corps vit par l'âme. L'âme, c'est la forme vivante, substantielle du corps. L'âme fait vivre toutes vos puissances de vie psychique. L'âme fait vivre, par exemple, votre imaginaire, votre mémoire, votre cogitative, votre estimative, votre sens commun. L'âme fait vivre, donc, toutes vos puissances de vie sensitive. L'âme fait vivre vos puissances de vie spirituelle, notamment, donc, le « nous ». Alors, ça, c'est du grec, ça veut dire l'intelligence contemplative. L'intelligence contemplative, pas l'intelligence qui résonne. Elle fait vivre une autre puissance qu'on appelle la volonté profonde, ou le cœur profond, la volonté donc profonde, et puis, donc la liberté, la mémoire ontologique. La mémoire, la liberté ontologique. Voilà trois puissances de vie spirituelle qui sont animées par cette âme, ok ? Donc je voudrais quand même ici préciser une chose importante, c'est pour qu'on se situe bien quand même, il faut, c'est, aujourd'hui je voulais faire des rappels du catéchisme élémentaire. Bon. Jésus vient, Dieu vient en nous, l'Esprit Saint vient en nous, le baptême, les sacrements viennent sur nous, en nous. Et qu'est-ce qui se passe ? On est entièrement irrigué par le sang de Jésus, par la vie de Jésus. Et du coup, la grâce, la fameuse grâce. J'ai beaucoup hésité cette année à vous faire cette année plutôt regarder la grâce, le mystère de la grâce ou de la charité. J'ai hésité à ça. Un jour, il faudra absolument qu'on fasse le mystère de la grâce.
C'est passionnant.
C'est la chose la plus extraordinaire. Alors la grâce, c'est quoi ? Donc la grâce, elle va être reçue dans l'âme, du centre de l'âme. Jésus va dans le centre de votre âme et comme le vin se met à l'eau, comme de l'huile se met sur un buvard, eh bien la grâce rentre dans toutes les parties de la vivification de votre âme. D'accord ? Donc, au lieu qu'il n'y ait que de l'eau, si je puis dire, qui irrigue tout votre corps, c'est aussi le vin qui l'irrigue d'un seul coup, par les mêmes canaux. Donc, vivification humaine, c'est l'âme, vivification divine, c'est la grâce. C'est le cœur de Jésus qui fait que ce qu'il vit en tant que Dieu vous est communiqué de manière vivante dans toutes les dimensions de votre vie, du corps, des puissances de la vie sensitive et des puissances de la vie spirituelle. Ok ? Ça, c'est la grâce. Donc la grâce, elle est reçue dans l'âme. Ok ? Mais quand l'âme vient vivifier, elle vient vivifier, par exemple, votre corps. Quand l'âme va vivifier votre corps, elle va faire que votre corps va pouvoir rentrer dans la gloire. Il va pouvoir être glorifié. Le fruit de la vivification plénière par la grâce du corps, ce sera la gloire, la glorification du corps. Le fruit, mais ça, c'est la dernière chose qu'on aura, la dernière. Donc, en attendant, les seules choses qu'on puisse avoir, parce que tout commence par le sommet, c'est les trois puissances de vie spirituelle dans l'âme, donc tout commence par les puissances de vie spirituelle de l'âme. Donc tout commence par... Alors, quand la vivification de l'animation des puissances spirituelles parvient dans les puissances spirituelles, dans l'intelligence, la grâce se transforme dans un espèce de liquide extraordinaire, une espèce de lumière surnaturelle qu'on appelle la foi. Qui est comme une espèce d'huile lumineuse dans un buvard terne, phosphorescent, et qui fait que vous voyez dans la nuit ce que Dieu voit. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est formidable, la foi. La foi, c'est que vous voyez, vous éprouvez, vous touchez par votre intelligence contemplative l'intimité, la connaissance expérimentale de ce que Dieu connaît en lui-même, dans son plus grande intimité, dans ses mystères. Connaître Dieu comme Dieu se connaît par la foi. Souvent on en est loin, hein. Avoir la foi, souvent on va dire oh, je crois bien que Dieu existe. Mais c'est pas ça du tout. La foi, c'est de pouvoir voir Dieu comme Dieu se voit. Ah, ça y est, je le comprends. Ça y est, je sais si. La très sainte Trinité, je comprends, je le vois. C'est... Et vous voyez bien que ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre humainement. La lumière, ça c'est la grâce. Quand la grâce vient irriguer une intelligence réveillée, eh bien, c'est la foi, lumière surnaturelle de la foi. Lorsqu'elle vient irriguer le point de vue donc de la liberté de la mémoire, elle élargit l'âme. Elle élargit toutes les puissances de don et d'accueil. Elle élargit toutes les puissances de donation, de manière à ce que je puisse donc recevoir la fameuse espérance. Et lorsque elle vient irriguer un cœur qui aime spirituellement et humainement, eh bien, c'est un feu surnaturel et lumineux et vivant qui vient donc dans l'amour profond de l'homme et qu'on va appeler la charité. La charité, ça dépasse donc totalement tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut comprendre et tout ce qu'on peut expérimenter. Ça dépasse totalement, c'est totalement, complètement, pas du tout à notre mesure. Pourtant, c'est vraiment notre cœur qui aime de cet amour-là. C'est un amour qui dépasse tout. C'est le même amour que Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de grâce? Tu te rappelles que tu, maintenant que tu m'avais posé la question? Tu ne te rappelles pas? Elle était intéressante, hein? Qu'est-ce que c'est que cette grâce? Donc moi, je suis ici, voilà le bonhomme. Et Dieu, il est, je vais le représenter par un cercle, parce que vous savez que le cercle représente l'éternité. De même que pour nous, ce qui fait Dieu n'a pas d'âme, vous savez que Dieu n'a pas d'âme. Dieu n'a pas d'âme. Dieu est un pur esprit. Vous avez ça dans votre catéchisme. Hein. Catéchisme pour les petits-enfants, première leçon de catéchisme, à l'usage des diocèses de France. Hein? Hein? Les vérités sont absolument. Hein? oui, ben, je ne trouve pas. Ah voilà. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, éternel, créateur et souverain maître de toutes choses. Vous allez l'apprendre par cœur. Première leçon de catéchisme, 5 ans. Et si tu ne savais pas par cœur, tu ne passais pas dans l'année supérieure de catéchisme après, hein. Tu redoublais. Et il fallait apprendre tout ça, là, tout ça. Ça, c'était 5-6 ans, ça. Tout ça par cœur. Je peux prendre au hasard, si vous voulez, hein. Je suis sûr que je vous pose la question, vous ne savez rien. Donc, vous ne passez pas en deuxième année de catéchisme. Si vous voulez vous humilier, vous... Bon. Dieu est un pur esprit, donc il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme, ok? Il n'a pas d'âme. Mais il y a quelque chose qui fait vivre Dieu. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Dieu est amour, Dieu est esprit, les contemplations. Donc, à l'intime de Dieu, bon, on le sait très bien, il y a les trois personnes divines, il y a les processions trinitaires, il y a une vie là-dedans. Extraordinaire. Et qu'est-ce qui actue toute la fane intérieure de la vie intime de Dieu? Non. Qu'est-ce qui... Non. qu'est-ce qui actue tout le diaphane intérieur de ma vie humaine? C'est l'âme.
Hein?
Bon, pour Dieu, il y a la même chose puisqu'il est vivant. Il est pur esprit, certes, souverain maître éternel. Mais alors, qu'est-ce qui actue tout le diaphane de la vie intime de Dieu? Non. C'est l'amour. C'est l'amour qui actue tout le... Oui, non, Dieu est amour. Ça, c'est... Oui, mais c'est pas ça qui actue. Ah, mais c'est pas ça qui actue tout le diaphane. Dieu est lumière, ça, d'accord. Mais moi aussi, je suis lumière, puisque je suis nous, je suis intelligence contemplative, et je suis amour, puisque j'ai un corps profond. Voilà, c'est la gloire. Non. T'as dit la lumière.
C'est moi... La lumière sous-entendue la lumière de gloire.
Non, c'est... Ah bah, si tu le sous-entends, c'est très gentil, mais je peux pas le deviner. Mais je dis simplement, c'est la gloire. La gloire.
C'est évident.
Ah bah, c'est évident pour toi, mais pas pour moi. Donc, la gloire. Je peux pas lire dans tes pensées, je suis désolé, je suis pas devin. Alors, donc, la gloire. On appelle ça la gloire. La gloire. Dès que tu dis gloire, tu te mets, tu t'engloutis dans ce qui actue toute la vie intérieure et intime de Dieu. Des trois personnes. Il y a un seul Dieu. Vivant. C'est la gloire. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une participation. Une partie de la gloire de Dieu dans notre âme. Épître de Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre. La grâce est une participation à la vie, participation formelle, à la nature divine de Dieu, à la vie divine. Alors, on dit une partie, ça veut dire que quand vous recevez la grâce sanctifiante, vous ne recevez pas tout ce qui actue le diaphane intérieur de Dieu, sinon vous deviendrez Dieu éternellement. Or, vous n'êtes pas Dieu éternellement. Donc, vous recevez une participation à ce qui actue, mais c'est une partie. C'est pas tout ce qui actue. C'est extraordinaire. Mais c'est la même lumière. C'est la même vie. C'est la même principe de divinité. C'est le même mouvement. C'est la même, on peut pas dire animation, mais c'est la même... On appelle ça, alors on dit grâce quand c'est nous qui participons, et c'est gloire quand c'est Dieu, parce qu'à ce moment-là, c'est éternel, incréé, absolu, tout puissant, infini, tout ce que vous voulez. Ok ? Donc vous commencez à comprendre pourquoi je vous fais ça, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça, c'est des notions qui sont très importantes à saisir. Hein. Vous voyez bien la différence donc, entre la gloire, la grâce, et le feu de la charité, et la lumière surnaturelle de la foi. Ah, l'espérance. Qu'est-ce qu'elle fait l'espérance? L'espérance, lorsqu'elle est reçue en moi, bah, elle dit, bah, voilà, je suis rempli de, j'ai la grâce, j'ai déjà reçu la grâce, je suis en état de grâce. L'espérance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quand je fais un acte d'espérance, je me mets dans la possibilité, suite à un pouvoir que j'ai, le chrétien a ce pouvoir, je me mets dans la possibilité de faire qu'il y ait une dilatation extraordinaire de mon âme, qui fait que je peux recevoir actuellement toutes les grâces qui sont sorties de la main du Créateur depuis le début jusqu'à la fin du monde. C'est ça l'espérance. C'est que l'espérance, c'est que j'ai une grâce comme ça, ok ? J'ai une grâce comme ça. C'est déjà pas mal. J'ai une grâce comme ça. Puis je fais un acte d'espérance. Alors dilatation, à l'infini, toutes les grâces depuis le début jusqu'à la fin du monde. Et puis vous revenez à vous. Et hop, c'est un peu plus haut. Puis vous faites à nouveau un acte d'espérance. Je reçois toutes les grâces qui sont sorties de la main de Dieu depuis le début jusqu'à la fin du monde. Et puis je reviens. Ma grâce, du coup, est un peu plus grosse, un peu plus grande. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire beaucoup d'actes d'espérance pour que ma grâce augmente. Ça, et c'est l'expérience qui fait ça. Faire beaucoup d'actes d'espérance. Il ne faut pas dire « j'ai l'espérance » ou « j'ai la foi ». En disant, j'ai la foi, hop, dans ma poche, terminé, j'ai la foi. Pas la foi, mais la foi, il faut faire des actes de foi. quelqu'un qui disait la foi, donc canapé, horizontal. Ça, c'est du jansénisme et du quiétisme. C'est condamné évidemment par l'Église. Tu ne peux jamais dire « j'ai la foi ». Tu peux dire « je crois en toi ». Tu fais un acte de foi. Dès que ta foi s'intensifie, tu peux dire que la foi est là. Dès que tu ne fais plus un acte de foi, ta foi n'est pas... Elle est là, potentiellement, mais elle n'est pas là actuellement. La foi n'est là à titre de mérite, à titre méritoire, on dit, que si tu es en train de faire un acte de foi, de toutes tes forces, toute ton âme, tout ton esprit, toute ton intelligence. Je crois en toi. L'acte d'amour et de charité, c'est pareil. Il faut faire des actes de charité. À chaque fois que je fais un acte de charité, je suis obligé de m'arracher à ce que je suis en train de vivre sur le plan de l'amour pour vivre la plénitude d'un amour de sainteté absolument pur, parfait, immaculé, glorieux. Et puis je reviens à la nana que j'aime bien. Alors, je l'aime un peu plus. Mais... si j'en étais qu'au premier degré, je l'aime au premier degré et demi. C'est encore un petit peu plus sérieux, ça. Alors vite, il faut faire d'autres actes de charité. Actes de charité, j'aime être un saint. Alors, tout l'amour vécu par tous les hommes de tous les temps, actuellement par tous les saints, tout l'amour, toute cette soif d'amour, tous ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont au purgatoire, l'amour de l'Immaculée, l'amour du Christ, l'amour de Dieu, etc. Tout. Pas brûle mon cœur, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça. J'ai fait un acte de charité extraordinaire. J'ai fait un acte. Et puis après, je regarde celui qui est proche de moi. Il y a quelque chose de mieux. Mais il faut faire beaucoup d'actes de charité. Comment faire, donc, notre thème de cette année, donc vous voyez, c'était pour vous situer. Donc cette année, comment on va faire pour, j'allais dire, à quoi ça sert de faire des actes de charité? Et puis, comment il faut faire pour faire des actes de charité? Comment faire pour que cet amour augmente à une vitesse spectaculaire? C'est ça, la fameuse éducation, hein, la fameuse éducation du cœur. J'aimerais beaucoup qu'on fasse ça. Voilà, donc j'espère que vous situez, c'est pour vous situer en gros, hein. Il faut que petit à petit le vocabulaire vous situiez un peu. Ouais.
C'est deux petites précisions, on avait parlé, avant de parler d'un moment de vous, on avait parlé à ça, vous disiez que comme c'était, donc chaque puissance de l'âme, que ce soit le cœur, l'intelligence ou la mémoire, devait avoir, pour l'exercice, pour s'exercer, devait avoir un organe, enfin un
spectacle
correspondant dans le corps.
Ouais, tout à fait.
Pour l'intelligence, c'était le cerveau.
Oui, peut-être. Sûrement, c'est les sens externes, je pense. Les organes correspondant au sens externe, pour l'intelligence contemplative. Hein.
Oui.
C'est, je crois que c'est les organes correspondant au sens externe, lesquels ne se développent dans l'embryon que quand l'embryon commence à se développer aussi, hein, parce que ça correspond au sens externe, oui, tout à fait.
Pour la mémoire, on avait vu que c'était sans doute
la cellule,
enfin ouais. La mémoire.
C'est la cellule initiale, oui.
La cellule initiale. Et en fait, pour le cœur, j'ai pas suivi.
Ben pour le cœur, je crois que c'est dès que l'affectivité commence à exister, hein, l'affectivité intérieure, donc dès qu'il y a quelques organes qui correspondent au concupiscible ou à l'irascible.
Alors, quels sont les organes qui peuvent permettre au cœur de s'exercer, à la volonté de s'exercer, les organes physiques?
C'est toi qui aimes, ok? Donc, dès que tu peux être en relation avec un autre que toi, hein? Dès que tu peux être en relation avec lui, hein? Tu dis, tiens, il y a papa qui parle à travers le ventre de maman sur un côté là. Je vais de ce côté, hein?
Est-ce que ce serait pas justement la région pulmonaire ou le cœur?
Ah non, négatif, non, je crois pas, non, le concupiscible, irascible, je crois correspondent à des. Comme pour les sens externes d'ailleurs, correspondent à. C'est à peu près au même stade du développement de l'embryon qu'on commence à avoir des organes qui sont ici au niveau du névrax, je suppose.
Oui,
du cerveau postérieur plutôt qu'au cerveau antérieur. Mais ça, c'est difficile. J'avoue que je n'ai pas trop étudié la question. Je sais que il est certain, moi, il me semble que dès que tu peux être en relation avec ta mère dans la vie embryonnaire, donc ça correspond au deuxième mois, quelque chose comme ça, hein, à peu près. Tu peux donc l'aimer, être aimé. Et tu peux l'aimer. Tu l'aimes. Tu aimes ta mère, tu aimes ton père. Tu es attiré, en tout cas, par la voix de ton père. Tu es attiré par. Un autre que toi. Tu n'es pas uniquement déterminé par des métabolismes qui te sont propres. Okay?
Par ordre de croissance, c'est d'abord la mémoire qui.
Ah, la mémoire est dès le départ.
Hein.
Alors, ensuite, c'est l'essence externe.
Ah bon.
Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, par l'essence externe, tu es mis en contact avec quelqu'un d'autre. Hein, et du coup, tu vois qu'il est autre que toi et en même temps que
l'amour
tu le portes.
L'amour vient en
dernier. Oui, l'amour vient en dernier.
Donc, la connaissance est toujours première.
Ah, toujours, oui. Tu ne peux aimer que ce que tu connais.
Par contre, dans l'ordre
de l'exercice.
La connaissance vient avant l'amour. Mais pour la fin, le but,
du côté de la cause finale, c'est l'amour qui est premier.
Alors est-ce que justement, petite parenthèse, est-ce que les intégristes justement qui disent toujours que c'est l'amour qui doit être au service de la lumière, de la connaissance, ben, ils disent souvent ça. En Dieu, ils disent que, une question très difficile, ils disent souvent que la lumière est promise. L'amour est en deuxième. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens qui étaient du côté de Mgr Lefebvre.
Ah oui.
Alors, ils disaient que pour vous, qu'est-ce qui est promis ? Est-ce que c'est l'amour ou le point de vue de la vérité ? Le point de vue de la lumière.
Oui.
Et eux, ils disent que du point de vue final, c'est la lumière qui est.
Oui, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent, en effet, parce que il faut comprendre que. Ils font une philosophie de l'amour en fonction de la théologie dogmatique.
Donc ça fait une scolastique.
Donc ça devient, à ce moment-là, je fais une philosophie à partir d'une révélation surnaturelle. Donc ils ne respectent plus la philosophie, puisqu'ils font intervenir des principes qui n'ont rien à voir avec l'amour humain, pour mettre une primauté sur la lumière. Parce que c'est vrai que pour notre vie humaine, lorsqu'elle est entièrement prise par la gloire, lorsqu'on rentrera dans la vision béatifique, eh bien, notre cœur, notre intelligence, notre âme, notre corps, etc., sera glorifié et sera entièrement actué par la lumen gloriae, la lumière de gloire. Cette lumière de gloire nous permettra de voir, de rentrer dans la vision béatifique. La vision béatifique, c'est la lumière. Donc, c'est le face-à-face. C'est le face-à-face. Et c'est cette lumière qui est une locomotive de béatitude continuelle. L'amour, lui, n'arrêtera de croître. Donc, qui sera supérieur dans la vie éternelle, après sa résurrection, ce qui sera supérieur, ce sera la lumière de gloire, ce sera la vision, ce sera la vie contemplative, une vie contemplative entièrement glorieuse, béatifiante, d'amour, c'est sûr, mais quand même l'amour suivra toujours. Tandis que, quand il s'agit d'ici, de notre vie terrestre, c'est la charité qui est le sommet.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans leur esprit à cause de cette espèce de scolastique finalement.
Alors, eux, ils sont d'accord, mais moi je suis d'accord avec ce qu'ils disent, en ce sens que c'est la lumière qui est au sommet dans tout le régime, mais du coup, ils en induisent de là qu'au niveau liturgique, il faut faire ceci et cela. Mais la liturgie, c'est sur la terre. Donc, au niveau de la terre, la liturgie, c'est la charité. C'est pas la lumière qui domine. Puisque le sommet de nos activités intérieures, surnaturelles, tant qu'on est sur la terre, c'est la charité. Le sommet, quand on sera au ciel dans la Jérusalem céleste, c'est la lumière. Mais c'est une lumière de gloire qui ne supprime pas la charité, mais qui permet à cette charité de se communiquer de plus en plus intensément.
Ils appliquent l'ordre divin à l'ordre humain, finalement.
Ils appliquent l'ordre éternel à l'ordre temporel.
C'est ça,
Mais les deux sont des ordres surnaturels, puisque la charité, c'est surnaturel. Donc, comme ils en induisent, à partir de ces principes, des conséquences sur le plan pratique, liturgique, la liturgie, c'est pour... La liturgie, c'est pour le point de vue terrestre. La liturgie, que ce soit en latin, pas en latin.
Mais il y a de graves conséquences si on applique ce qu'ils disent du point de vue concret.
Oui, mais c'est pour ça, c'est que. Bon, peu importe, on peut. Faut pas les coincer là-dessus.
Mais il y a un problème quand même chez eux là-dessus.
Je sais pas, peut-être que oui, je sais pas, non, mais peut-être, j'avoue que je préfère pas toucher à leur foi, à leur manière de, parce que quelque part ils sont blessés. C'est un peu comme on voit bien que l'humanité est blessée sur le point de vue humain, alors du coup on s'attaque au point de vue philosophique. Eux, ils voient bien que l'Église est blessée sur le point de vue donc de la lumière, alors ils s'attaquent en mettant l'accent sur le point de vue de la lumière surnaturelle, de la foi, la doctrine, la faillibilité, etc. Et puis donc, ils sont un petit peu rêches, un petit peu verticaux, un petit peu rêches là-dessus. Mais c'est bon, je veux pas non plus les. Je crois que bon, peut-être que Dieu se sert de ça aussi quelque part, tu vois. Je sais pas, j'ai du mal. Moi, je ne peux pas trop mettre le corne sur eux, quoi. Hein, je crois que chacun a sa place, bon, et puis à un moment donné, il faut que. Peut-être qu'un jour, ils vont découvrir ce que nous espérons, que c'est pas tellement, au fond, se crisper là-dessus qui compte. Ce qu'il faut, c'est retrouver, quelque part, une humanité disponible à l'Esprit Saint, quoi. Et pour que cette humanité devienne disponible à l'Esprit Saint, il faut qu'on accepte nos péchés, nos faiblesses, nos défaillances, nos névroses, nos psychoses. On est des êtres rampants, faibles, faibles, trop faibles. Et qu'est-ce que tu veux? Et à partir de ces faiblesses, comprendre quand même où est notre nature, où est-ce qu'on pourrait aller, puis demander à Jésus de compléter tout ce qu'on n'arrive pas à faire, quoi. Et puis faire ces actes d'espérance, faire ces actes de foi, faire ces actes de charité, et ces actes d'adoration. Faire beaucoup d'actes d'adoration pour qu'au moins, ne serait-ce que 5 secondes, de temps en temps, je redevienne en bonne santé. Ne serait-ce que 5 secondes, ça ne tient qu'à moi. Puis après, je retombe dans la faiblesse. Je glisse désespérément vers, je sais pas quoi, vers la Neshama, ça. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut petit à petit donner à la possibilité à Jésus de compléter, à l'Esprit Saint aussi, de guérir, de laver. À force de faire ces actes de foi, d'espérance. Donc de rentrer petit à petit dans une rédemption vivante, surnaturelle. Et en même temps, de permettre que ce soit possible en faisant des actes d'adoration, c'est-à-dire en réveillant la néfèche. Parce que si je fais mes actes de foi, d'espérance et de charité uniquement avec ma Neshama, c'est emmerdant, parce que c'est pas spirituel. Si je ne suis pas mûr spirituellement, si je suis pas mûr spirituellement, j'ai beau faire des actes de foi, d'espérance et d'amour, que je crois être surnaturel, eh ben, il crève pas le plafond du point de vue même humain, parce que c'est psychologique. J'ai l'impression, il faut quand même avoir cette maturité. Or, cette maturité, tout le monde peut l'atteindre, quel que soit son degré de grossièreté affective, intellectuelle, spirituelle, et de sa liberté. Il suffit de savoir faire son acte d'adoration. L'acte d'adoration. C'est l'acte d'adoration, et ça c'est facile à faire. Ça c'est facile à faire, je suis désolé, mais il faudra tout le temps que je vous le répète. Il faut, avant de faire un acte de foi, faire un acte d'adoration. Avant de faire un acte de charité, faire un acte d'adoration. Avant de faire un acte d'espérance, faire un acte d'adoration. Voilà. Dire voilà, ce que je vis, je ne m'en occupe pas. Je vois simplement que j'existe, je me touche. J'ouvre les yeux. Au lieu de faire comme ça, oh, qu'est-ce que je souffre, mais ça fait rien, j'ai confiance. Ça, c'est psychique, ça. Ah, j'ai rien compris, mais c'est normal, maintenant je comprends tout. Ça, c'est psychique, ça. Jésus m'a fait comprendre tout maintenant, oui. C'est à cause de ça, que ça, que ça. C'est votre cerveau qui fonctionne. C'est votre cerveau néchamique. Hein. C'est pas du tout votre cerveau néphésique. Et vous interprétez tout. Non, non, non. Ça, vous ouvrez les yeux, voyez que vous existez. J'existe. Ah, là, je dépends de la créature de Dieu. Ce que je vis, m'en occupe pas. J'existe, c'est tout. Je dépends de la créature de Dieu. Et du coup, tout ce que je vis, je lui donne, je me mets entièrement entre ses mains. Et je reste là, 4 secondes. Ça y est. Là, ça y est, pendant ces 4 secondes, je suis sur le plan spirituel. Mes 3 puissances du cœur, de l'intelligence et de la liberté peuvent faire un acte de foi ou d'espérance ou de charité. Surnaturel. Mais si je ne me suis pas d'abord hissé par l'adoration dans le point de vue spirituel,
pour retrouver la partie spirituelle de mon acte, à ce moment-là, la lumière surnaturelle de la foi peut couler comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Eh oui. Alors, pour que ça rentre, il faut que ça s'ouvre par l'acte d'adoration. Que le cœur s'ouvre par l'acte d'adoration. Que la liberté s'ouvre, l'élargissement de l'âme spirituelle, par l'acte d'adoration. Et après, je fais un acte de foi, ou un acte d'espérance, ou un acte de charité surnaturel. Là, je suis sûr que c'est surnaturel. J'en suis sûr. Vous pouvez être certain si votre acte est théologal et surnaturel, ou s'il ne l'est pas. Ça, vous pouvez en être absolument sûr. Par contre, à condition, vous voyez, que vous fassiez votre acte d'adoration, et c'est à l'intérieur de votre acte d'adoration. C'est facile à faire, hein. J'existe. Jugement d'existence. Tout est basé sur le jugement d'existence. Ça, alors là, il faudra... Tout. Alors là, il faut vraiment que vous en fassiez l'expérience, c'est ça, hein? Il faut que nous en fassions tous l'expérience. C'est basé là-dessus, c'est l'axe de tout. Et c'est simple, peut-être que d'une manière compliquée de l'expliquer, mais c'est très simple. C'est très très simple, j'existe. Qui ne peut pas comprendre ça? J'existe. Je vis. Oh là là, oui, ça c'est pas terrible ma vie, hein. Je comprends là, mais j'existe, c'est extraordinaire, j'existe. Là, c'est clair, j'existe. Ma vie m'échappe un peu. Ça va dans tous les sens. Je suis une vraie passoire. Voilà. Peut-être que j'existe, c'est solide, j'existe. C'est ça, là. Parce que ma vie est dans mes mains, quelque part, mais ça part dans tous les sens. Je ne maîtrise pas ma bagnole. Alors, c'est formidable. Une espèce de. C'est des explosifs, ça explose dans tous les sens. Tu sais, voilà, tromper la dynamite qui explose, impossible. J'existe, là. Ça, j'existe. Ça, c'est dans la main de Dieu, ça bouge pas. C'est là, le fait que j'existe, ça, c'est dans la main du Créateur. Là, je suis dans la main du Créateur, puisque j'existe. C'est assez lent. C'est très difficile, ça. J'existe. Ah, je vais commencer à prier, les mecs, hein. Alors, autre manière. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier. Oh, l'amour, je ressens un amour pur, pur, froid, mais ça, encore plus profond. L'amour spirituel, ou ça. Encore plus profond. L'amour, cet amour est si grand qu'il est éternel. Mais donc, l'amour éternel, mais c'est Dieu. Ah oui, donc c'est Dieu. Imbécile. T'as trouvé simplement la profondeur de ton cœur, c'est tout. Et alors, je vais adorer cet amour éternel. Tu t'adores à travers une de tes puissances, donc tu t'adores toi-même. L'amour éternel de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu peux toucher dans ta puissance du cœur profond, dans l'amour que tu vis, parce qu'il y a quelque chose, c'est à l'image de Dieu que nous avons été créés, d'accord? Image. Alors, si tu vis que de l'image et pas de la ressemblance, à ce moment-là, il n'y a plus que l'image. Et du coup, ça devient l'image de la bête. C'est l'antichrist. Et c'est tout dans le point de vue de l'intériorité. Vous voyez bien? Donc, il faut comprendre que dès qu'on se précipite dans le point de vue uniquement de l'intériorité et pas tellement du jugement d'existence, tac, ça y est, on tombe dans l'image séparée de la ressemblance. Et de la grâce, c'est très important ça, c'est l'axe de tout. Hein. Donc pour sortir l'axe, la charnière entre les deux, c'est le jugement d'existence. Donc il faut faire beaucoup de métaphysique, beaucoup. J'existe. Ah, là t'es sûr de ton coup. J'existe. Alors, je suis suspendu à le Créateur de Dieu, et du coup toute ma vie apparemment je la mets en Dieu. Là, vous voyez, je ne ferme pas les yeux. Hein. Spontanément, je ne ferme pas les yeux, j'existe. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder, dès que vous avez une apparition de la Vierge, etc., qui est en train de faire un acte d'adoration, elle n'est pas là. Oh non, non.
C'est automatique, n'est-ce pas? C'est clair. Il faut sentir ça. Alors, oui, pourquoi tu te rappelles pas de ta dernière apparition? Alors, tu fais un acte d'adoration. Cet acte d'adoration, il est génial. Il n'a pas pour but d'aimer Dieu. J'espère que vous le saisissez, ça. L'acte d'adoration n'a pas pour but d'aimer Dieu. L'acte d'adoration a pour but d'être vous-même. De que votre vie soit dans cet être qui est dans la main de Dieu. Donc d'être vous-même. Avec un visage. Nefesh d'homme. C'est pour votre santé humaine. À ce moment-là, ça y est, votre âme spirituelle est en acte. Et si humainement vous êtes philosophiquement en bonne santé, alors à ce moment-là, vous pouvez demander à la lumière surnaturelle de la foi d'irriguer votre intelligence et dire « Je veux croire en toi ». Et où j'espère avec une confiance éperdue que je ressens en ce moment toutes tes grâces de ce monde et le bonheur éternel de l'autre monde. Vous connaissez par cœur les actes de foi, d'espérance, de charité, etc. N'est-ce pas? Et l'amour de charité, où toutes les écluses sont ouvertes. Toutes les écluses. Tous les hommes, tous les êtres, tous les saints, toutes les grâces, toutes les victoires de l'amour rentrent dans votre cœur et tout est flambé en vous. J'aime Dieu et mon prochain comme moi-même. Et tout mon prochain et tous les prochains et Dieu grâce à l'amour. Par amour. C'est un acte que je fais. Je dois l'expérimenter, le faire. Faire un acte. C'est pas. Et ça, c'est le caractère du baptême qui me donne ce pouvoir. À chaque fois que je fais l'acte, il est surnaturel si je me suis placé sur le plan spirituel. Ça va? Et je me place sur le plan spirituel, humain, si je fais un acte d'adoration. Donc la base de tout, c'est de faire 7 actes d'adoration par jour. 7 actes d'adoration par jour. C'est la règle ici. Surtout ceux qui ont fait leur oblature, n'est-ce pas? C'est la règle absolue. Oblature, n'est-ce pas, chez les frères, c'est dans la communauté Saint-Jean. 7 actes d'adoration, c'est philosophique. Curieux qu'une règle de vie chrétienne faire des actes d'adoration philosophiques. Sinon, tous tes actes sacramentels sont nuls, au point de vue fécondité. Et c'est pour ça que tu t'aperçois que tu ne guéris pas. Tu t'aperçois que la grâce sanante ne te guérit pas. Tes défauts ne tu vois, la sainteté ne prend pas, ne s'incarne pas. Il n'y a pas une reprise. La victoire sur le péché n'arrive pas. Bon, moi je crois que c'était important de faire ça, de regarder donc l'ensemble, hein, donc de notre, ce qu'on appelle l'anthropologie, donc une vision, si vous voulez, sur notre vie, quoi, hein, pour voir où on voudrait se situer cette année, pour approfondir la vertu théologale, surnaturelle, divine, de charité dans notre cœur, je vous le rappelle, c'est, nous allons voir comment ça s'approfondit dans une spiritualité. Et cette spiritualité, on appelle ça l'esprit d'obéissance. C'est par l'esprit d'obéissance que notre charité surnaturelle va s'intensifier. C'est en faisant des actes concrets d'obéissance. Et on va voir tous les types d'obéissance, toutes les fausses obéissances. Quelquefois, je vais dire j'obéis, et puis paf, ça me coupe l'amour, au contraire. Donc, il y a une manière fausse d'obéir, il y a une manière juste d'obéir, il y a une manière sainte d'obéir. Et c'est l'esprit d'obéissance. Comme on avait déjà vu l'esprit de pauvreté et puis l'esprit de virginité. Donc, cette année, c'est ça, c'est l'esprit d'obéissance. On va voir ça. Et vous voyez le sujet, comme il est d'aboutir finalement au terme, au sommet, à la fameuse obéissance au Saint-Esprit. Donc pour nous donner un petit peu le goût de tout ça, dans le deuxième moment, après qu'on ait pris un petit quelque chose, on va lire quelques petits passages de Saint-Jean de la Croix pour voir qu'est-ce que c'est quand on est dans un acte d'obéissance, dans l'horizon, à la vive flamme de l'amour, donc au sept dons du Saint-Esprit. Lorsqu'on obéit au Saint-Esprit, lorsqu'on est en train d'obéir au Saint-Esprit, par exemple, pendant une demi-heure de suite, il se fait dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe dans l'obéissance du Saint-Esprit? Parce que l'obéissance, l'esprit d'obéissance consiste à obéir au Saint-Esprit. Et c'est ça. Donc on va essayer de voir comment, au fond, ce que nous raconte Saint Jean de la Croix, pas tout lire Saint Jean de la Croix, il faudrait toute l'année pour lire la vie flamme d'amour de Saint Jean de la Croix, il faut même plus que toute l'année. Mais on va mettre un petit passage. Et puis voilà, et puis comme ça on pourra après dire le rosaire dans la charité.